On est heureux de pouvoir se retrouver ensemble, de se rassembler malgré les circonstances. Et c'est aussi le genre de circonstances qui nous donne envie de prier, Seigneur, sois souverain, sois Dieu sur nos vies, sur ce monde. Jésus revient aussi. Seigneur, reviens, que nous puissions vraiment vivre dans un monde qui soit renouvelé et dans lequel il n'y aura plus ni peine ni tristesse, mais que de la joie. Où nous pourrons les uns et les autres avoir de bonnes relations aussi. Puisque vous savez que depuis 3 semaines maintenant, c'est la 3e fois, nous allons aborder le sujet de l'église locale, vivre l'église locale. Et lors du premier partage qui avait été assuré par Laurent, il y a 3 semaines maintenant, nous avions parlé, non, il y a 15 jours plutôt, enfin, qu'importe, le premier message, Laurent avait posé et donné la définition de ce qu'était une église locale et qu'est-ce que cela signifiait d'être membre d'une église locale. Et nous avons commencé à voir ensemble la semaine dernière comment vivre l'église locale un peu plus précisément en parlant des relations que nous sommes appelés à tisser les uns avec les autres. C'est vrai que si ce matin je vous posais la question, qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'église puisse convenablement remplir sa mission? Il y a 3 axes principaux qui concernent la mission de l'église. Il y a l'axe du témoignage, du partage de la foi. Une des missions de l'église, c'est de partager cette espérance que les uns et les autres nous avons reçue lorsque nous avons compris ce que Jésus avait accompli pour chacun d'entre nous. Et l'espérance qui est liée à ce que Jésus est venu faire en mourant à la croix et en nous donnant la vie éternelle. Donc il y a cet axe-là du témoignage. Il y a un 2e axe qui est celui de l'édification. Lorsque nous nous rassemblons, nous partageons notre foi et nous sommes appelés à nous édifier les uns les autres, à nous encourager les uns les autres. Donc ça, c'est un autre axe, l'édification. Et puis, il y a un 3e axe, c'est celui que nous venons d'accomplir ensemble, c'est celui de l'adoration. Alors, au travers de Jésus, nous avons reconnecté avec Dieu, on était séparés de Dieu à cause de notre péché, et parce que Jésus a accompli cette œuvre de réconciliation, lorsque nous réalisons ce que Jésus a accompli pour chacun d'entre nous, lorsque nous réalisons qui est vraiment Dieu et que nous sommes un peu débarrassés de toutes les fausses images que nous pouvons avoir de Dieu, bah forcément ce qui sort de notre cœur, c'est l'envie de l'adorer, c'est l'envie de le célébrer, c'est l'envie de le remercier, de lui dire qu'on l'aime. Donc c'est ça, hein, la mission de l'Église, c'est le témoignage, c'est l'édification et c'est l'adoration. Alors qu'est-ce qui est nécessaire pour que l'Église remplisse convenablement sa mission? Alors bon, je ne vais pas vous passer le micro parce que ça nous mènerait un peu loin, mais on pourrait donner des réponses assez diverses à cette question. Peut-être que certains diraient ce qui est important pour que l'Église remplisse sa mission, c'est que les uns et les autres nous fassions œuvre de bonne volonté, que nous puissions apporter notre contribution à la vie de l'Église, c'est vrai. On pourrait dire aussi que c'est de pouvoir découvrir nos dons et de mettre nos dons, les dons que le Seigneur nous a communiqués aux uns et aux autres, au service des autres, à l'intérieur de l'Église, à l'extérieur de l'Église. On pourrait dire l'Église pourra convenablement remplir sa mission au travers aussi des enseignements qui sont donnés, qui sont là pour nous équiper, qui sont là pour nous encourager, qui sont là pour nous édifier. Et ces messages-là vont nous encourager et vont nous permettre de remplir cette mission. Tout cela est vrai, mais je pense que notre défi majeur en tant qu'Église, c'est de construire de bonnes relations ensemble. Parce que les meilleurs dons que le Seigneur puisse nous communiquer et la meilleure volonté que nous puissions manifester et même les meilleurs messages qui pourraient être partagés chaque dimanche matin ou à d'autres occasions, tout ça, ça peut être gâché par des problèmes relationnels. Si j'ai un problème relationnel avec quelqu'un ce matin, il va avoir du mal à écouter ce que j'ai à dire. Je peux fonder mon message même sur la Bible, mais si on n'a pas une bonne relation ensemble, ça va demander un effort considérable, et peut-être même que ce ne sera pas possible si vraiment il y a un grave problème. Ce qui veut dire que même au travers de ce que Dieu peut nous donner aux uns et aux autres, tout ça, ça peut être complètement amoindri si nous n'avons pas ce souci de construire ensemble de bonnes relations. D'autant plus que la qualité du relationnel, c'est vraiment une des caractéristiques du service chrétien. Dans une entreprise, la priorité, ce sont les compétences. Et dans une entreprise, la relation va d'abord être fonctionnelle. Vous êtes appelé à faire ce pour quoi vous avez été embauché et ce pour quoi vous êtes payé. Et c'est là-dessus qu'on va vous demander des comptes. Si on vous donne des objectifs à atteindre et que ces objectifs ne sont pas atteints, même si vous êtes quelqu'un de très aimable, de très gentil, que vous avez tissé des bonnes relations au sein de l'entreprise, ça va pas suffire peut-être pour éviter la porte ou d'être muté à un autre poste. Parce que ce qu'on vous demande, c'est le résultat, c'est la performance. Et c'est ce qui fait que au sein d'une entreprise, c'est d'abord cet aspect fonctionnel qui va être mis en avant. Dans une église, la priorité, elle est relationnelle. Elle est relationnelle parce que nous sommes frères et sœurs avant d'être pasteurs, avant d'être leader chant, avant d'être musicien, avant d'être leader de groupe maison, avant d'être responsable sono, etc., etc., etc. Donc c'est d'abord la relation qui compte. La meilleure arme que l'ennemi va utiliser pour affaiblir et démolir l'Église, c'est la destruction des relations. C'est toujours intéressant de revenir au récit des origines pour voir un peu comment nous fonctionnons en tant qu'êtres humains. Et regardez, quand vous lisez le début du livre de la Genèse, dans le jardin d'Éden, les relations, elles étaient harmonieuses. Ça se passait très bien. Les relations étaient harmonieuses entre Dieu et les êtres humains, entre l'homme et la femme. Et les relations étaient harmonieuses aussi entre l'homme et la femme. C'était vraiment un temps extraordinaire, génial. Et ce récit de la Genèse nous indique le type de relation que Dieu a prévu aux origines. Il voulait ce type de relation, de bonnes relations avec lui, et il voulait que nous ayons des bonnes relations ensemble. Et le serpent vient détruire la relation entre l'être humain et Dieu en le poussant à l'autonomie, mais la conséquence de cela, c'est que la relation entre l'homme et la femme va aussi être détruite. Et ce faisant, le serpent porte atteinte à l'œuvre de Dieu. Donc toucher aux relations et toucher à la qualité des relations, ça va déstabiliser l'œuvre de Dieu. La meilleure arme que le Saint-Esprit, par contre, va utiliser pour fortifier et pour bâtir l'Église, ce sont de bonnes relations. Parce que, comme je l'ai rappelé au début de ce message, Jésus est venu rétablir la relation entre Dieu et les êtres humains. Et la conséquence, c'est que c'est le rétablissement de bonnes relations entre les êtres humains aussi, entre eux. Vous voyez, ça a forcément un impact. La relation que je retrouve avec Dieu va avoir un impact sur les relations que je vais construire avec mon entourage. Et le salut, ça ne concerne pas simplement que notre âme et notre avenir céleste. C'est sûr que dans le ciel, quand le royaume de Dieu sera établi, là, on n'aura pas plus de problèmes relationnels, ça c'est certain. Nous serons tous parfaitement régénérés, transformés, on sera à l'image du Christ, donc on aura tout ce qu'il faut pour avoir de bonnes relations les uns avec les autres. Mais le salut dont nous sommes les bénéficiaires nous conduit à manifester le royaume de Dieu dès maintenant. Le royaume de Dieu, ce n'est pas simplement une réalité future, c'est quelque chose que nous sommes appelés à manifester, et notamment au travers de nos relations. C'est la qualité des relations entre nous qui montreront le mieux que Dieu règne dans ce monde. C'est pour ça qu'il ne faut pas minimiser cet aspect-là. Travailler à bâtir de bonnes relations ne va pas seulement servir à créer une bonne atmosphère dans l'Église, quand nous nous retrouvons, ça va aussi avoir un impact sur nos relations en dehors de l'Église. Ça va avoir un impact dans notre famille, ça va avoir un impact auprès de nos voisins, ça va avoir un impact auprès de nos amis, auprès de nos collègues, auprès de nos patrons, auprès des gens que nous fréquentons. Auprès de toutes les personnes que nous fréquentons, qui constituent les autres groupes auxquels nous appartenons. Et avoir de bonnes relations, ça optimise notre témoignage. Ça donne du poids à notre foi, lorsque nous avons le souci de partager notre foi avec ceux qui nous entourent. C'est toujours un peu bizarre de voir des personnes qui n'ont pas peur de parler de Jésus, mais qui ne sont pas capables de construire de bonnes relations avec leur entourage. Et il y a une espèce de décalage. Ça amoindrit, ça affaiblit le témoignage qui est porté. Travailler à de bonnes relations, c'est une activité très spirituelle, très spirituelle. L'histoire du salut, c'est une histoire de relation. C'est une relation coupée avec Dieu qui est rétablie par Jésus. Et l'Église, elle est constituée de personnes qui ont une relation avec Dieu. Et c'est la qualité de la relation avec Dieu qui va déterminer la qualité des relations avec les autres. Et pour pouvoir voir comment construire de bonnes relations, on s'était penché sur ce texte qu'on trouve dans la lettre de Jacques au chapitre 3. Verset 13, on va relire ça ensemble parce que dans ce passage-là, Jacques fait comme une liste des éléments qui nous permettent de construire de bonnes relations. Il écrit au verset 13, « Quelqu'un parmi vous pense-t-il être sage et intelligent, qu'il le prouve par sa bonne conduite, par des actes accomplis avec humilité et sagesse. Mais si vous avez le cœur plein d'un zèle amer et d'un esprit de rivalité, cessez de vous vanter d'être sage en faussant ainsi la vérité. Une telle sagesse ne vient pas d'en haut, elle est terrestre, trop humaine, diabolique même. Car là où règne zèle amer et esprit de rivalité, il y a aussi le désordre et toute espèce de mal. Mais la sagesse d'en haut, c'est celle qui nous intéresse, est tout d'abord pure. Ensuite, elle est pacifique, modérée et conciliante. Elle est riche en compassion et en actions bonnes. Elle est sans indécision et sans hypocrisie. Ceux qui recherchent la paix autour d'eux sèment dans la paix et récoltent la justice. Donc, je vous rappelle rapidement ce qu'on avait vu la semaine dernière. On avait parlé de la pureté dans les relations, c'est-à-dire avoir des relations qui soient transparentes, être vraiment au clair sur ce que je peux attendre de l'autre dans la relation que je tisse avec cette personne. On avait vu ensuite la paix, que la paix, c'était un objectif à rechercher en soi-même. Le but dans nos relations, ce n'est pas d'éviter les conflits, c'est de rechercher la paix. Vous voyez, on se programme d'une manière qui est complètement différente. Et s'il y a bien quelque chose là que l'on diffuse autour de nous, c'est ça. Ça, c'est la paix, des relations paisibles. Troisième point, la modération. Admettre que la personne en face de moi, la personne avec qui je tisse une relation, elle n'est pas entièrement comme moi. Et quelquefois, on se projette sur les autres. Et c'est ce qui fait que quand on a un petit peu du mal à se comprendre, il y a une part émotionnelle qui peut facilement s'exprimer. Et il faut savoir se modérer et s'adapter à l'autre personne. Et le quatrième point que nous avons vu, c'était celui de la conciliation, un élément très important quand on veut bâtir de bonnes relations. Ne pas être animé par le désir de toujours avoir absolument raison, mais se mettre aussi et savoir se mettre à l'écoute des autres pour les comprendre. Et c'est une manière de faire un pas aussi vers l'autre. Donc on va continuer notre étude de ce texte de Jacques. Et ensuite, Jacques parle de la compassion. Quand on parle de compassion, c'est un mot qui désigne souvent ce qu'on ressent pour quelqu'un qui souffre. Mais dans la Bible, c'est un mot qui désigne aussi l'affection et l'attention qui lie deux personnes ensemble. C'est un mot qui exprime l'intérêt que l'on porte aux autres. C'est ce qui correspond à ce que nous appelons aujourd'hui, on pourrait dire, la gentillesse. Ça regroupe un peu tout ce qui est de la notion, toutes les notions qui tournent autour de la politesse, de la serviabilité, de la bienveillance aussi. Ce mot traduit la volonté à prendre en considération et à faire du lien avec les autres. C'est ce qui se passe par le fait, des choses très simples, mais par un sourire par exemple, par le fait de se saluer, par le fait de dire merci, par le fait d'avoir une parole encourageante. Vous voyez, c'est ce souci, ce désir de s'intéresser à l'autre. C'est ce qui conduit à être attentionné. Alors, c'est la gentillesse, c'est pas toujours évident d'en parler parce que on se moque beaucoup de la gentillesse aujourd'hui. La gentillesse, quelqu'un qui est gentil, c'est devenu synonyme de quelqu'un qui est naïf. Quelqu'un qui est gentil, voilà. Quelqu'un qui est faible. Vous savez, quand on te dit « Oh, il est trop gentil », donc ça veut dire « Il est faible, il s'est fait avoir encore ». Ou alors même carrément, « Gentil », ça veut vouloir dire « Bête ». « Bon, il est gentil, lui ». Ça veut dire, c'est vraiment très péjoratif. Être gentil, c'est certain, ne veut pas dire accepter tout et les autres profiter de nous. Il y a toujours des limites, quand même, que nous devons consciemment fixer pour ne pas que les autres puissent exploiter notre gentillesse ou abuser de notre désir, là, de l'attention que nous portons aux personnes. Ça ne signifie pas être d'un caractère faible, être gentil. Et il faut vraiment établir ces limites-là. La gentillesse est assurément une valeur positive. Et c'est une force dans les relations. Et en préparant ce message, j'ai découvert que les scientifiques, les neuropsychologues en particulier, ont redécouvert ces dernières années les vertus de la gentillesse. La gentillesse a été étudiée en laboratoire. Ça a été fait aux États-Unis, ça a été fait en Allemagne notamment. Et ces études ont démontré que les actes de bienveillance, de gentillesse, favorise la production de sérotonine. La sérotonine, c'est une substance qui est sécrétée par le cerveau, un neurotransmetteur, on appelle ça. Et la particularité de ce neurotransmetteur, c'est qu'elle évite la mélancolie, elle évite la tristesse. La gentillesse permet d'éviter la mélancolie. Et elle évite la mélancolie, elle produit la sérotonine autant chez les personnes qui sont gentilles que chez celles qui bénéficient de la gentillesse. C'est ça qui a été observé. Si par exemple je veux être gentil à l'égard de quelqu'un, je vais être gentil à l'égard de Maxime. Supposons que Maxime il a une sciatique, il a du mal à bouger, à se lever. Je vais être gentil, je vais l'aider, je vais saisir le bras puis je vais dire Maxime, je vais t'aider. Là, quand je fais ça, mon cerveau il va sécréter de la sérotonine et en même temps, dans Maxime, ça va avoir le même effet. Mais pas seulement. Ça veut dire que Albert, là, qui m'a vu aider Maxime, faire preuve de gentillesse à son égard, lui-même, il va assister à l'acte de gentillesse et il va se produire le même phénomène chimique dans son cerveau. Il va produire de la sérotonine et devenir encore plus gentil qu'il n'est déjà. Donc ça veut dire que tout le monde est bénéficiaire de la gentillesse. Celui qui est gentil, celui qui bénéficie de la gentillesse et celui qui assiste à un acte de gentillesse. Et c'est ce qui fait, c'est extraordinaire, c'est que dans certaines entreprises, les responsables de ressources humaines organisent des stages de gentillesse. Pourquoi ? Parce que ça favorise le vivre ensemble. Et c'est sans doute pour ça que Mark Twain, le fameux auteur américain qui a écrit Les Aventures de Tom Sawyer, a écrit cette très jolie phrase : la gentillesse, c'est le langage qu'un sourd peut entendre et qu'un aveugle peut voir. Parce que la gentillesse, elle nous lie ensemble d'une certaine manière. Et Jacques dit, on l'a lu tout à l'heure, que la sagesse d'en haut est riche en gentillesse ou en compassion et en bonnes actions. C'est-à-dire que ça nous pousse à être attentionnés, ça nous pousse à aller vers l'autre. Ça veut dire, quand Jacques dit ça, qu'il s'attend à ce que la compassion, la gentillesse portent du fruit. Être attentif aux autres nous détourne de nous-mêmes, nous ouvre aux autres, nous dispose à être attentifs. Et ça demande un effort, c'est évident, c'est pas forcément quelque chose qui vient par soi-même, qui vient tout seul, mais c'est bénéfique pour nos relations. Et surtout, ça contribue à créer, à entretenir et à diffuser une atmosphère agréable. Donc, pensons à la compassion, pensons à la gentillesse. Jacques parle aussi que la sagesse divine, elle inspire le fait d'être sans indécision. Là, le mot que Jacques utilise, c'est littéralement, c'est pas partagé. Si vous êtes inspiré par la sagesse dans les relations que vous tissez, la sagesse divine, dans les relations que vous tissez les uns avec les autres, vous n'êtes pas partagé. Il n'y a rien d'incertain, il n'y a rien d'indécis dans la relation. Ça traduit la constance dans le caractère. Et on avait parlé la semaine dernière, en parlant de la pureté, de la transparence, qu'un élément qui est très important dans les relations, c'est la confiance. Il y a un personnage qui a longtemps marqué l'histoire des États-Unis en ce qui concerne le christianisme, c'est Billy Graham. Billy Graham a longtemps été un des personnages les plus populaires, hein, outre-Atlantique. J'imagine que pour la plupart d'entre vous, vous le connaissez. Si je me tiens aujourd'hui devant vous et si je prêche aujourd'hui devant vous, c'est grâce au ministère de Billy Graham, parce que c'est vraiment sa prédication qui un jour m'a touché et qui fait que j'ai donné mon cœur à Jésus. Donc j'ai beaucoup de respect pour Billy Graham. C'est un évangéliste qui a fait le tour du monde, il a annoncé l'évangile sur tous les continents de la planète, et il a toujours eu un message vraiment très clair, sans compromis, un message de repentance, un message de conversion, et il était connu pour ça, et on savait que si on l'invitait, c'est vraiment ce message qu'il communiquerait. Et ça ne l'a jamais empêché d'être apprécié par les non-croyants. Et même, en fait, Billy Graham, les autorités, au temps de la guerre froide, lorsque là, les États-Unis étaient en bisbille constante avec la Russie, l'URSS à l'époque, eh bien, dans ce temps d'affrontement, quelquefois, les autorités américaines ont même demandé à Billy Graham de retisser du lien, de faire du lien, de porter des messages de la part des États-Unis aux Russes ou en Corée du Nord aussi, il l'a fait, pour essayer de réchauffer les relations entre les deux nations qui ne s'entendaient pas bien. Donc c'était vraiment quelqu'un qui était jugé digne de confiance. Et pourquoi ça ? Parce que Billy Graham, c'était quelqu'un de constant. C'est quelqu'un qui n'a jamais changé de langage. C'est quelqu'un qui est toujours resté intègre. Et malheureusement, ça n'a pas toujours été le cas des grands prédicateurs connus outre-Atlantique. Mais Billy Graham a toujours été cohérent avec ses convictions. Il a été constant. Il n'était pas partagé. Et c'est ce qui fait qu'il a beaucoup été écouté et qu'on lui a fait confiance. C'est difficile de faire confiance à des gens changeants, à des gens qui sont indécis. La relation, elle n'est pas vraiment transparente. Elle est troublée par le fait que l'opinion des personnes changeantes varie souvent. Un coup, ils disent oui, un coup, ils disent non. Ils disent ce qu'ils vont faire et finalement, ils ne le font pas. Et quand ils font, ils s'arrêtent en cours de route et sans donner d'explication. C'est compliqué, la relation, quand elle n'est pas stable, quand il y a cet aspect changeant. Et il y a un exemple de ça dans le livre des Actes. Lors de leur premier voyage missionnaire, Paul et Barnabas ont amené avec eux un dénommé Jean-Marc pour les aider. Et puis, au cours de ce premier voyage missionnaire, ça nous est dit dans Actes 13, au verset 13, ils arrivent dans une région qui s'appelle la Pamphylie, et Jean-Marc décide de rentrer chez lui, à Jérusalem. On ne connaît pas trop les circonstances et les raisons qui ont conduit Jean-Marc à arrêter d'accompagner Paul et Barnabas dans le voyage. Donc, Paul et Barnabas, ils continuent le voyage, ils fondent partout des églises, et ensuite, ils reviennent à Antioche, d'où ils étaient partis, et après avoir fait un rapport de ce qui, des implantations d'églises qu'ils avaient effectuées, ils envisagent un second voyage missionnaire. Et Barnabas veut à nouveau emmener Jean-Marc avec eux. Mais Paul n'est pas d'accord. Et la raison qu'il met en avant, c'est que, justement, il ne les a pas accompagnés jusqu'au bout de leur œuvre. Il y a un moment donné, il les a lâchés. C'est ce qu'on lit un peu plus loin dans Actes 15, verset 37. Paul estimait qu'il ne fallait pas emmener Jean-Marc parce qu'il les avait quittés en Pamphylie et ne les avait plus accompagnés dans leur mission. Ils eurent une si vive discussion qu'ils se séparèrent. Barnabas prit Marc avec lui et s'embarqua pour Chypre. Et Paul va partir de son côté avec Silas, un autre collègue. Vous voyez comment la relation, elle a été impactée par le fait que Marc n'a pas eu cette constance. Il était partagé et ça a eu un impact. La constance, au contraire, elle permet de savoir où on va avec la personne, dans la relation avec la personne. Parce que les gens constants ne sont pas soumis aux circonstances ou à leurs humeurs. C'est-à-dire, c'est un signe de maturité spirituelle, ça. Ils donnent plus d'importance à la relation elle-même qu'aux événements qui pourraient affecter la relation. La constance, elle a de ça de vraiment positif, c'est qu'elle crée la sécurité. Ça renforce les relations. Et ça permet d'œuvrer sur la distance. Alors on sait que l'histoire va bien se finir et que Paul va rétablir des relations avec Marc et qu'il va continuer de collaborer avec lui pour le ministère. Mais on a bien vu qu'il y a eu un moment où c'était un peu délicat. Et puis le dernier point que nous allons voir ensemble, la sagesse d'en haut, nous dit Jacques, nous inspire des relations sans hypocrisie. Avoir une relation sans hypocrisie signifie que l'on soit le même quand on parle avec la personne et quand l'on parle de la personne. L'hypocrisie, c'est de la dissimulation. C'est quand on ne montre pas nos vrais sentiments ou nos vraies intentions, quand nos paroles et notre comportement ne correspondent pas à nos intentions. C'est ça l'hypocrisie, si on pouvait donner une définition. Le mot grec qui est utilisé, qui est d'ailleurs, c'est hypocritos, donc vous voyez que le mot français, c'est un quasi-décalque du mot grec. Le mot grec fait référence au jeu des acteurs. Et il faut savoir comment ça se passait dans l'Antiquité. Dans l'Antiquité, les acteurs portaient des masques lorsqu'ils montaient sur scène. C'était des masques en cire, des masques en bois ou des masques en cuir. Et ces masques-là leur permettaient de jouer différents rôles. Aujourd'hui, si vous allez au théâtre, vous allez avoir un acteur qui va jouer, je ne sais pas moi, le rôle du père de famille. Vous allez avoir un acteur qui va jouer le rôle de la servante. Vous allez voir un acteur qui va jouer le rôle du voisin. Voilà. En fait, dans l'Antiquité, vous aviez un acteur qui jouait plusieurs rôles. Donc, le masque servait à identifier les personnages qu'il interprétait. Donc, il y avait un masque pour le jeune homme, il y avait un masque pour le vieillard, il y avait un masque pour le soldat, il y avait un masque pour le paysan, pour la jeune fille, pour l'esclave, la servante. Donc, c'était des codes qui permettaient d'identifier qui intervenait. Donc, il y avait un acteur, mais qui jouait plusieurs personnages. Une personne, mais avec plusieurs masques. Ça veut dire qu'à un moment, il pouvait arriver sur la scène en faisant le rôle du vieillard, et à un autre moment, il pouvait arriver sur la scène en faisant le rôle du jeune homme. C'est juste qu'il avait un masque différent. Donc on peut, comme ça, dans la relation, avoir plusieurs masques, jouer plusieurs rôles. Vous pouvez avoir le masque de l'ami disponible qui écoute la personne qui confie ses problèmes, et une fois qu'elle a le dos tourné, vous pouvez prendre un autre masque qui dit « mais il m'ennuie quand il me parle de ses problèmes ». Et puis il les a bien cherchés. Un masque, un autre masque. Vous avez le masque de l'enfant qui écoute bien les enseignements et les encouragements de ses parents chrétiens, qui dit « oui maman, j'ai bien compris ». Et puis quand la porte est franchie, c'est le masque de l'enfant qui ment, de celui qui juge, de celui qui fait la fête, qui boit, qui trafique, je ne sais pas. Vous avez le masque du bon chrétien qui prie, qui adore, qui écoute la parole. Et puis vous avez le masque de monsieur tout le monde qui vit sans le souci quotidien de sa relation avec Christ, sans le souci du regard de Dieu sur sa vie. Un masque à un moment, un autre masque à un autre moment, un rôle à un moment, un autre rôle à un autre moment. L'hypocrisie, c'est « je te fais croire quelque chose à mon propos qui n'est pas vrai. Je ne suis pas celui que tu crois, mais je ne te le dirai pas. Au contraire, je vais entretenir l'illusion. » Il n'y a pas de pureté, il n'y a pas de transparence. Et on a vu que c'était un élément tellement nécessaire dans la relation. L'hypocrisie, c'est comme une publicité mensongère. Dans les années 80, il y avait un yaourt qui avait fait sa pub. Et le slogan de ce yaourt, c'est « Ce qu'il fait à l'intérieur se voit à l'extérieur ». L'hypocrisie, c'est quand ce qui est à l'intérieur est différent de ce qui est à l'extérieur. C'est vraiment quand on montre quelque chose qui n'est pas vrai. Et souvent, c'est le cas dans la pub pour les sandwichs. Quand vous allez dans un magasin de sandwichs et puis que vous voyez l'image du hamburger ou du sandwich, ça vous fait envie. Et puis quand vous faites la commande, si tu peux appuyer sur la touche suivante, voilà à quoi ça ressemble. Donc vous sentez qu'il y a une différence entre ce qui vous est présenté et puis ce que vous allez consommer. C'est ça l'hypocrisie. Je ne te montre pas à l'extérieur ce qui est vraiment à l'intérieur. Ce que j'ai apprécié, lorsque j'ai fait avec ma famille un voyage aux États-Unis, c'est que quand on va dans les fast-food, les sandwichs sont préparés sous vos yeux. C'est-à-dire que vous faites la file, et puis au fur et à mesure que vous avancez dans la file, vous dites, bah voilà, je veux des oignons, je veux telle viande, je veux de la salade. Et le vendeur, il est en train de faire le sandwich sous vos yeux. Donc ce qui est à l'intérieur, je le vois. Là, il n'y a pas de dissimulation. Et je sais qu'au final, je vais trouver ce que j'ai demandé. Je pense que dans la relation, c'est la même chose. Entre nous, nous devons vraiment exprimer ce qui est à l'intérieur de nous. Et nous sommes chrétiens. Nous croyons en l'œuvre du Saint-Esprit. Et l'œuvre que Dieu accomplit en nous, c'est ce qui est appelé à s'exprimer au travers des relations que nous tissons les uns avec les autres. L'hypocrisie sape la confiance à la base. Quand ce qui est dit sur quelqu'un par derrière lui revient aux oreilles, c'est très blessant. Et la désillusion est violente. Une des choses les plus difficiles dans la relation, c'est de redonner sa confiance à quelqu'un qui a été hypocrite. C'est pour ça qu'il faut vraiment veiller à des relations sans hypocrisie. Attention à ce que nous disons des choses. Moi, je me suis donné une règle, c'est peut-être quelque chose qui pourra vous servir, mais je fais attention quand je parle de quelqu'un qui n'est pas là, qui n'est pas présent, je me dis, est-ce que je pourrais dire ça si la personne était présente ? Et ça me donne une limite. C'est pas toujours évident, hein, c'est un travail continuel. On a besoin du Seigneur hein, dans toutes ces choses, mais ça peut peut-être vous servir pour... dans ce domaine-là. La sagesse, elle nous conduit plutôt à avoir un langage et un comportement qui soit cohérent, sans décalage avec ce que nous pensons vraiment. Et cette cohérence contribue à entretenir une relation de confiance. Donc, tout ce que j'ai partagé avec vous cette semaine et la semaine dernière, ce sont des indications très pratiques. Et ça permet de voir ce que nous arrivons à faire et ce que nous avons plus de mal à faire. Peut-être, Tony, tu peux nous accompagner à la guitare ? Simplement, on va terminer en demandant au Seigneur d'être avec nous, qu'il nous accompagne dans ce défi, ce challenge de pouvoir construire de bonnes relations les uns avec les autres. Encore une fois, tout cela va nous servir pour ce que nous sommes appelés à vivre là, dans l'Église, lorsque nous nous fréquentons. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses bonnes à tirer pour les relations que nous tissons aussi avec, dans notre famille, sur notre lieu de travail, avec notre voisinage. Et là, c'est ce que Jacques nous enseigne, ça peut nous donner des indications sur « ouais, là ça va, là c'est peut-être un peu plus compliqué pour moi. Et est-ce que je construis vraiment des relations paisibles ? Est-ce que je n'éprouve pas le besoin de toujours me justifier ? Ou est-ce que je suis facilement dépendant des circonstances ? Est-ce que je suis facilement dépendant de mes humeurs et que ça a un impact sur mes relations ? En matière de modération, comment est-ce que je me situe ? Est-ce que vraiment je suis capable de m'adapter à l'autre ? Est-ce que je peux admettre qu'il n'a pas exactement la même opinion que moi, qu'il n'a pas le même caractère que moi, qu'il va exprimer les choses différemment ? Est-ce que je suis capable de m'adapter ? Ou alors, j'ai tellement de mal à ne pas me laisser emporter par ce que je ressens. Est-ce que je sais être à l'écoute des personnes dans les relations que j'ai avec elles? Ou alors, est-ce que j'ai tendance à parler? Est-ce que j'ai tendance à toujours vouloir dire ce que je pense? À monopoliser la parole? En matière de conciliation, peut-être que je sais réellement prendre en compte l'opinion des autres. Mais peut-être que j'aime toujours avoir raison. Et que finalement, j'essaie toujours d'une manière ou d'une autre, même en donnant l'illusion du dialogue, que j'écoute, que je veux bien, mais en réalité, mon objectif, c'est d'avoir raison. En matière de gentillesse, de compassion, peut-être que oui, je suis attentif aux autres. C'est quelque chose là qui est là, que je sais exprimer, c'est quelque chose que j'ai su développer et je veux continuer d'y travailler, mais peut-être aussi que je n'éprouve pas le besoin de m'intéresser aux autres. En matière d'indécision, oui, je suis capable de constance. Peut-être que je suis quelqu'un de changeant et qu'il faut que je m'améliore dans ce domaine-là. Et même chose en matière d'hypocrisie. Oui, je parais à l'extérieur et j'ai vraiment cette volonté, ce souci de manifester à l'extérieur ce que je suis vraiment à l'intérieur. Mais peut-être aussi que je joue un rôle dans mes relations pour donner une image qui ne correspond pas vraiment à ce que je suis. C'est pour ça que c'est important de se mettre sincèrement sous le regard de Dieu. Il ne nous juge pas, il ne nous condamne pas, il nous accueille. Si nous avons vraiment cette volonté de changer et de nous améliorer, il va nous aider. Il y a juste une erreur qu'il ne faudrait pas faire. Et j'ai déjà parlé de ça la semaine dernière, mais l'erreur, ce serait de me concentrer sur ce qui me manque et de travailler par moi-même à le développer. Si vraiment je suis dans cette logique-là, j'ai peu de chances d'obtenir des résultats. La meilleure façon de devenir plus sage et de se concentrer sur la sagesse, c'est de se concentrer sur la sagesse de Dieu elle-même. Or, qui est la sagesse de Dieu? C'est ce qui nous est dit dans 1 Corinthiens. Chapitre 1, Dieu vous a unis à Jésus-Christ et il a fait du Christ notre sagesse. C'est le Christ qui nous rend juste devant Dieu, qui nous permet de vivre pour Dieu et qui nous délivre du péché. Par conséquent, comme le déclare l'Écriture, si quelqu'un veut se vanter, qu'il se vante de ce que le Seigneur a fait. Plus je serai connecté à Jésus, plus je serai connecté à la sagesse de Dieu, plus j'aimerai Jésus, et plus Dieu va agir en moi, plus l'Esprit de Dieu va agir en moi, et plus le Seigneur va faire cette œuvre en moi, et je n'aurai pas à me vanter, et toute la gloire en reviendra à Dieu, au Seigneur. Et c'est ce qui contribuera à notre joie, à notre paix. Christ est lui-même la sagesse divine. Il est mort pour mes péchés. Il est ressuscité pour que je puisse avoir une relation personnelle avec lui par la foi. Christ vit en moi. La sagesse de Dieu vit en moi. Seigneur, nous ouvrons notre cœur devant toi. Nous sommes une église et nous voulons vraiment être l'église de Jésus, l'église que tu bâtis. Et nous croyons, Seigneur, que tu l'as bâtie au travers de nous et en particulier au travers des relations que nous nouons et que nous développons les uns avec les autres. Seigneur, ce n'est pas une option. Nous formons une communauté. C'est toi qui nous rassemble, c'est toi qui nous unis. Et chaque dimanche, nous manifestons notre reconnaissance de te connaître, de t'appartenir. Mais nous voulons aussi, Seigneur, élever nos voix pour te dire, mais à toi soit la gloire, parce que je vois que mes relations grandissent avec les autres, parce que je vois que je peux tisser de meilleures relations encore avec les autres. Je te prie, mon Dieu, pour que ce que nous avons pu partager, ces deux dimanches, puissent vraiment servir à ce que nous puissions consolider nos relations, que nous puissions le vivre et l'accomplir au travers là, de ton œuvre en nous, Seigneur Dieu, que nous puissions le vivre dans l'Église, mais que nous puissions le vivre aussi auprès des membres de notre famille, auprès de nos voisins, auprès de nos collègues, de nos patrons, Seigneur, et qu'ils puissent voir quelque chose, une volonté, une intention qui les amène à s'approcher de toi, qui les amène à vouloir te connaître aussi. Seigneur, tu as dit que nous serions reconnus au fait que nous nous aimons les uns les autres. Et nous croyons qu'il y a une atmosphère qui est créée au travers des relations de bonne qualité que nous tissons les uns avec les autres. Alors nous nous mettons à ta disposition. Vraiment avec humilité, Seigneur, nous voulons te demander, Seigneur, œuvre au travers de nous. Guide-nous, donne-nous la volonté. Ça doit être intentionnel. Alors donne-nous d'avoir cette volonté de tisser de bonnes relations. Et qu'ainsi, Seigneur, nous puissions voir ta gloire se manifester encore plus. ce désir de te voir élevé et glorifié encore plus dans nos vies et dans l'Église. Amen, Seigneur. Amen.